Les chemins de la recherche.
Radio Campus
Grenoble
90.8.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes ici sur les ondes de Radio Campus, la 90.8 FM, à l'émission Les Chemins de Traverse de la Recherche. Nous plongerons ce matin dans l'univers où l'image ne se contente pas d'être vue, mais elle se vit. L'univers où le corps du cinéaste devient acteur de l'image, où la caméra respire, trébuche, s'épuise parfois, bref... Un cinéma qui éprouve physiquement. Il est 10 heures. Pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'être avec Marco Chancy, doctorant riche recherche création à l'UTISAR en études cinématographiques, qui travaille monsieur sur ce concept intrigant, le corps caméra. Bonjour Marco.
Bonjour Guy Raoul et merci beaucoup pour l'invitation dans cette émission. Comme tu l'as dit, je suis en effet en thèse de recherche-création grâce au programme REACH, et qui est spécialisé du coup moi dans les études cinématographiques. C'est une thèse qui est dirigée par monsieur Didier Couraud et co-encadrée par Aude Fourel, qui est elle-même cinéaste plasticienne et maître de conférence. Et du coup, je travaille en effet sur le corps filmé au travail, plus particulièrement, donc la chair au travail, et je m'intéresse à filmer le corps des travailleuses et travailleurs tout en travaillant sur le terrain des ouvriers agricoles et des exploitants maraîchers et aussi celui des égoutiers, ceux qui travaillent dans les égouts, parce que je ne connaissais pas ce métier avant de m'intéresser à ce sujet. Voilà.
Bienvenue auditeurs et auditrices, installez-vous bien confortablement.
nue sur le sol. Je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y'a pas de place pour les fables. Y'a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol. Relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père. Insolente, je l'étais. Dans les yeux de mon frère. Ouais, des claques, ils sont ébouffés. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tout ce bruit dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison.
Corps, seul, et la notion de corps caméra converge dans une même poétique de l'incarnation dans les deux corps. Le corps cesse d'être un simple objet pour devenir sujet médium, engageant une expérience sensible et politique qui rompt avec la neutralité du regard et affirme une subjectivité vécue. Alors tout à l'heure, tu disais à lui, corps caméra, et lui qui s'écriait « Quoi? Corps caméra ?» Ben c'est super, ça, on va se régaler aujourd'hui. Alors ce néologisme, Mako, corps caméra intrigue par sa sonorité et la densité d'image qu'il convoque. Mais avant d'en proposer une définition, alors il importe de comprendre le cheminement qui a conduit à l'explorer. Alors raconte-nous comment tu es parvenu à interroger cette expression, quel contexte, quel événement, quelles pratiques ont orienté ta réflexion. S'agissait-il de replacer cette notion dans un cadre plus large, c'est-à-dire des dispositifs de captation et de surveillance, mais aussi des usages artistiques et politiques qui mettent en tension le corps et la machine?
Peut-être que du coup, je vais essayer de retracer mon parcours depuis le mémoire, parce que je pense que ça vient de là, en grande partie. J'ai fait un mémoire pour mon master d'études cinématographiques qui avait déjà une démarche de recherche-création à un niveau beaucoup plus réduit, hein, du coup, sur un an. Il y avait quand même un manuscrit et une pratique travaillée de l'image à la fin. Et c'était avec des rushs que j'avais enregistrés pendant une saison agricole que j'avais faite en tant qu'ouvrier bénévole, on va dire, au sein des jardins détaillés, pas loin d'ici d'ailleurs, juste sur le terrain du campus, à Saint-Martin-d'Hères. Et du coup, voilà, c'est un truc que j'avais fait parce que j'avais besoin de mettre un peu de mouvement, de me mettre en mouvement pendant mon premier mémoire et de revenir au travail de la terre que j'avais déjà fait avant. Et du coup, voilà, j'ai commencé des expérimentations vidéo sur ce terrain en travaillant dans les gestes du travail que je faisais avec des caméras tout terrain, si on peut dire. En tout cas, légères, numériques, résistantes à l'eau, etc. C'est pas non plus une GoPro, c'est une Handycam. Mais voilà, l'objectif, c'était de sculpter le geste cinématographique en même temps que ceux qui étaient liés au travail. Et donc, la performance de l'acte de filmer rejoint celle qui est demandée par le travail de la terre. Et c'est pendant, du coup, ma soutenance que j'ai rencontré Aude Fourel, qui est maintenant ma co-encadrante. Et on a eu une discussion autour de la création que j'avais produite. Et au départ, c'était surtout dans la volonté de délaisser un certain surplomb vis-à-vis des représentations du travail de la terre. Et d'avoir une vision beaucoup plus proche, beaucoup plus au ras de la chair et de la terre. Et elle m'a fait découvrir du coup cet ouvrage de Sophie Delpeu qui utilise ce terme de corps caméra d'après les termes utilisés par la philosophe Catherine Perret. Hein, c'est un emprunt d'emprunt. Et elle parle de ce corps caméra en lien avec les arts performatifs. Voilà. Et du coup, elle part des créations qui mêlent l'acte d'enregistrement de la création des images à des mouvements corporels dans les arts performatifs. Il y a plusieurs exemples, dont les Adjunct Dislocations, réalisés par Valley Export en 1973, où l'artiste s'attachait deux caméras, une à sa poitrine, une dans son dos. Oui. Voilà, l'objectif, c'était de faire se correspondre deux points de vue qui, a priori, ne collent jamais. Et il y avait aussi la série de photographies Blinks, réalisée par Vito Acconci en 1969, où lui photographiait tous les instants où il cligne des yeux dans la rue, autour de chez lui. Et du coup, voilà, elle part de différents exemples de l'utilisation de la caméra dans les arts performatifs. Et donc, il me semblait que de revenir aux sensations et aux visions des membres du corps qui s'usent dans un travail nécessaire. Et d'utiliser justement ces gestes pour filmer, c'était c'est venu comme un truc un peu essentiel quoi sur le moment. Voilà.
D'accord. Robert Wyatt, Slow Walking Talk pour cette toute transition.
Some people say it's laziness, and I'd better do some work. The cat, he spends his time sound asleep both night and day. When I try to do the same, they tell me, get walking on your way. I get a walking. Time so steadily, I thought it was alright. I wondered why she looked around at all the other guys. But then she upped and she left me, and I realized it was my slow walking talk, my
slow a walking talk. Yeah, yeah.
Pièce minimaliste explorant une esthétique de la lenteur et de la retenue, Wyatt y déploie une voix fragile, presque mimurée, qui s'articule avec une instrumentation épurée. La chanson donc évoque la marche comme métaphore de l'existence, un déplacement ralenti qui invite à l'introspection et à l'écoute attentive du temps. Par son économie sonore, elle crée donc ainsi un espace de suspension soulignant la valeur poétique de l'ordinaire et de la dimension existentielle des gestes simples. Nous parlons bien sûr de gestes simples avec Marco Chancis. Alors bien Marco, ce terme, tu ne l'as pas donc inventé. Il vient d'un autre chant. Et d'ailleurs, tu cites Catherine Perrette et Sophie Delpeux. Et il semble alors qu'à l'origine, le terme concerne la performance artistique. Alors explique-nous comment toi tu le déplaces.
Ah, comment je déplace ce terme? Disons que je le replace, ou déplace, oui, dans un cinéma dit documentaire ou du réel. Parce que cette utilisation performative de la caméra, elle a évidemment eu une influence sur beaucoup de films. Et il s'agit par exemple dans des films, ou des instants dans des films, où le corps qui est en train de filmer se fait ressentir à la caméra, à l'image. Et où le corps filmé, pardon, peut se faire sentir aussi. Par exemple, on a... Il y a Raymond Carrasco, une cinéaste et universitaire, qui a fait plein de fragments vidéo sur les tarahumaras, où on sent vraiment les pierres entrer dans la terre quand il laboure la terre. On sent les mains, on sent les dos qui se courbent. C'est très particulier. On a aussi le cinéaste Robert Garner, qui a filmé tout un rituel funéraire sur le Gange, où là, c'est vraiment ses mouvements à lui, ses déplacements et ceux des personnes qu'il filme, qui font le film, en fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de voix off, c'est vraiment juste ce qu'on voit et les traces du corps du cinéaste. Et du coup, ça peut aussi aller jusqu'à des réalisations comme celle de Wang Bing, un cinéaste chinois contemporain, où lui, à cause d'un manque de moyens, il a commencé par utiliser une petite handicam de basse qualité pour enregistrer ce qu'il voulait enregistrer. Et ça donne lieu à des images un peu tremblantes qui pourraient rappeler des images amateurs, on va dire. Et voilà, savoir comment on utilise ces moments qui sont, dans les films habituels, coupés au montage, quoi. Voilà.
Et là, on a l'impression que le cinéaste ne cherche pas à effacer donc son corps. Alors, il assume comme étant une partie de l'écriture. Et concrètement, ça, en fait, ça veut dire quoi, filmer avec un corps caméra?
Alors, je vais essayer d'être plus précis, même si c'est un peu compliqué, parce que, en étudiant, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on peut appeler un corps caméra. Il y a d'ailleurs les frères Dardenne qui ont parlé de corps caméra, mais eux, c'était pour désigner le duo, la binomie du preneur de son et du cadreur caméra. Mmh. Donc voilà, il y a plein d'utilisations, mais dans ce que j'entends moi, c'est vraiment l'acte de filmer par le corps, avec le corps et non plus avec le regard. Ou parfois carrément on se détache du retour écran et on se laisse vraiment guider par la performance du corps. De l'acte de filmer, de l'acte de déambuler avec quelqu'un qu'on suit, en l'occurrence pour mon sujet, de l'acte des gestes du travail de la terre. Et du coup, qu'est-ce que voudrait dire filmer par un corps caméra, par cette pratique? Ce serait à l'inverse, disons, de l'utilisation qui voudrait raconter consciemment quelque chose, une histoire, un film écrit, scénarisé et composé comme il faut. Et du coup, on se dirigerait plus vers des plans sensoriels, des plans de situation, d'événements, de véritables fragments du réel. Voilà.
D'accord. Alors, dis-nous, en fait, avant l'événement du, on va dire, l'avènement du documentaire contemporain, alors, quel artiste ont posé, on va dire, les premiers jalons de cette démarche-là?
C'est aussi assez compliqué à répondre parce que j'ai pas une connaissance de tous les endroits dans les films et la création des films où on pourrait retrouver ces instants filmés avec le corps. Mais dans mon corpus, en tout cas, on peut repérer des prémices de cette utilisation chez le cinéaste Robert Garner, pardon, que je viens de citer. Où là, on a vraiment un travail rigoureux de l'intuition de l'image. C'est un universitaire, lui d'ailleurs, à la base, qui vient des sciences humaines. Et il s'est très vite intéressé au cinéma documentaire et lui revendiquait un documentaire de création. Donc avec une posture d'auteur et ne pas faire semblant que la caméra, que celui qui filme n'est pas là. Mais il me semble que j'ai aussi envie de parler de Drahomira Vianova, une cinéaste tchèque. Désolé pour la présentation, pour la prononciation. Et plus particulièrement de ses documentaires, notamment un où elle suit un travailleur solitaire en République tchèque qui s'appelle Last of the Clan en 1977. C'est une réalisatrice assez peu connue malheureusement. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de séquences là-dedans où elle suit cette personne sur son territoire en train de travailler. Et voilà, là aussi, on peut avoir des prémices de ce corps caméra.
D'accord.
Animus, man, and morphosis, monkeys, and
David Byrne, Walking Along the River, issu d'un travail expérimental. Ce morceau met en tension voix parlée, texture électronique, influx verbal de Byrne, fragmentaire et quasi méditatif, se juxtaposant à l'univers sonore conçu par Eno, où se mêlent nappes synthétiques et rythmiques discrètes. On y perçoit une réflexion implicite sur la modernité, la perception et la continuité, bien sûr, entre paysage naturel et environnement technologique. Alors, notre très cher Marco, oui. Lorsque tu opposes l'image plutôt lisse à celle éprouvée sur, on va dire, sur quel registre conceptuel tu te situes, s'agit-il d'une image marquée par l'expérience, la temporalité ou pas la matérialité du support lui-même, du médium? Voilà.
Ce serait un peu compliqué de se placer sur un seul de ces registres, étant donné que ces trois concepts, on va dire, j'ai l'impression qu'ils sont toujours en action dans le travail de l'image, en mouvement en tout cas. À des degrés différents aussi. Mais disons que la pratique et la temporalité, donc ce qu'on pourrait appeler la praxis, sont directement liées dans ce travail, étant donné que la répétition des gestes de la création dépend de la répétition des gestes du travail. Et la matérialité est surtout travaillée, par contre, après coup, même si elle dépend aussi beaucoup du tournage et des incidents, des aberrations qui peuvent apparaître pendant le tournage, de la surexposition, sous-exposition, et ainsi de suite. Ce qui caractériserait cette pratique, ce serait peut-être aussi la focalisation sur une sorte de travail de la relation avec d'autres manières d'exister et du coup de résister aussi à quelque chose d'écrasant avec ce genre de travail, en l'occurrence. Et voilà.
Quand le corps, on va dire, du cinéaste vacille, alors cette instabilité se percute sur l'image et quand sa respiration devient, on va dire, audible, elle s'impose alors dans la bande son. Alors, une telle interaction ne redéfinit-elle pas notre perception du réel filmique?
Alors là aussi, le réel filmique, c'est c'est très complexe pour moi. En tout cas, je dirais que c'est un cinéma qui ne fait pas semblant d'être réel, justement, en s'effaçant derrière des plans qui mimeraient une réalité autre. Il est entièrement dedans et décentré d'un regard qui serait unique, celui de l'auteur, du créateur avec un grand C. Et du coup, il va tirer parti plutôt de l'aspect fragmentaire des séquences vidéo. Il enregistre les incidents, il garde les dysfonctionnements autant corporels que des images enregistrées. C'est un peu comme un tournage qui sort de ses gonds. Et du coup, il s'agirait plutôt de ramener le spectateur à un état de perception plutôt que d'observation, dans le sens où il s'agirait de le faire sentir quelque chose, une situation, une usure corporelle en l'occurrence, lorsqu'il regarde l'image, et de le faire rapprocher d'un état de sensation pour être pleinement avec le corps qui est filmé, et celui qui filme aussi. On pourrait aussi parler d'une image affectée, d'ailleurs. Voilà.
D'accord. Cette fragilité de l'image qui se manifeste par son vacillement, alors, ne traduit-elle pas, on va dire, autant une orientation éthique qu'un choix esthétique?
Je pense que c'est plutôt le résultat direct des conditions de travail, hein, pour rester très concret, et des résultats aussi des conditions de la création, surtout lorsqu'il y a tournage sur des lieux aussi particuliers. Et par exemple, le cinéaste Wang Bing, dont j'ai parlé tout à l'heure, il est allé tourner son premier film, un long métrage de 9 heures, dans des usines sidérurgiques en Chine, qui étaient en train de disparaître. Hein. Tous les ouvriers allaient se retrouver sans emploi. Voilà, c'était un moment très très compliqué pour eux. Mmh. Et du coup, sur ce terrain, évidemment, cette fragilité de l'image, c'est un choix avant tout de ressources budgétaires, liées à des ressources budgétaires. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun argent pour le faire, donc c'était avec sa petite handycam. Mmh. C'était clandestinement aussi, sans autorisation officielle. Mmh. Donc là, je crois qu'il n'est plus autorisé à rentrer sur le territoire chinois.
Oh là là.
Et du coup, le choix esthétique se fait un peu chemin faisant. Mmh. Au fur et à mesure où il filme, une fois qu'il a les matériaux, qu'est-ce qu'il va faire avec, au montage en fait. Mmh. Je pense que s'il y a une articulation à trouver entre ces deux, dans cette pratique, c'est plutôt au moment du montage, même si les deux sont liés.
Mmh. Avec une santé de fer.
Avec une santé de fer. Dès que séchera la rosée, regarde la rouille posée sur la médaille et son revers. Elle teinte bien les feuilles d'automne. Elle vient à bout des fusils cachés. Elle rongerait les grilles oubliées. Dans les prisons, s'il n'y venait personne. Moi, je la vois comme une plaie utile, marquant le temps d'ocre jaune et de rouge. La rouille aurait un charme fou si elle ne s'attaquait qu'aux grilles. Avec le temps, tout se dénoue. Que s'est-il passé entre nous? De petits jours en petits jours. À la première larme séchée, la rouille s'était déposée sur nous et sur nos mots d'amour. Si les fusils s'inventent des guerres, et si les feuilles attendent le printemps, ne luttons pas comme contre le temps. Contre la rouille, il n'y a rien à faire.
Enfant métaux.
Moi je la vois comme une déchirure, une blessure qui ne guérira pas. L'histoire va s'arrêter là. Ce fut une belle aventure. Nous ne nous verrons plus. Et puis, mais ne crois pas ce que je dis. Tu sais, je ne suis pas en fer. Dès que séchera la rosée, la rouille se sera posée sur ma musique. Et sur mes vers.
Il embraye sur mourir. Ah, ça, je connais pas ce que je fais. Ce cœur-là. Ah, et il part sur mourir. Mourir, ça c'est tout un fondu enchaîné comme ça. Mourir pour un instant. Ah, c'est impressionnant. Hein.
Alors Marco, parle-nous un peu de cette chanson qui t'a inspiré pendant ton enquête, Jean-Rouille de Le Forestier.
C'est en fait un extrait de mes rushs où... du coup, je suis un paysan résistant, on va l'appeler comme ça, sur le territoire des Pyrénées-Orientales. Donc, territoire très compliqué sur tous les points, on va dire. Et du coup, voilà, ça fait un an que je suis avec lui. Et c'est une rencontre qui vraiment répond à pas mal de mes questionnements sur cette thèse de recherche-création. Et du coup, là, ce qu'on vient d'écouter, c'était un échange... pendant une pause de travail où on se fait écouter des musiques parce qu'il aime bien Écoute, se faire partager des musiques, quoi. Enfin, c'est un geste quotidien, voilà.
Super. Alors, on va revenir un peu à ce beau thème de Coq Amira que nous sommes en train de disséquer ensemble. Alors, quel cinéaste aujourd'hui, on va dire, pour toi, incarne cette démarche-là?
Alors, j'ai déjà un peu parlé de Wang Bing, donc sans surprise, je le glisserai là-dedans. D'autant plus que, à l'inverse de plans qui tremblent, qui sont en mouvement, qui enregistrent des maladresses, on va dire, on peut aussi y voir un travail beaucoup plus fixe, mais qui se toujours dans une même réflexion de comment on retire un fragment de réel qui va pouvoir importer en tant que trace qui peut devenir une réelle trace historique de ce qui est en train de se passer dans son pays. Pardon. Et du coup, par exemple, il a réalisé un film de 3 heures où c'est seulement un plan face caméra d'une femme qui témoigne de ce qu'elle a vécu dans les camps de travail en Chine, de la perte de son mari, et voilà, c'est son histoire pendant 3 heures. On est face à elle comme lui est face à elle, et il nous remet face à ce témoignage. Donc voilà, c'est assez troublant. Il y a aussi peut-être des réalisations de Verena Paravel et Lucien Castin-Taylor, un couple de cinéastes contemporains qui viennent aussi de l'anthropologie, me semble. Et ils ont réalisé notamment le film Léviathan, un documentaire sur un chalutier, sur des chalutiers, sur la baie ouest. Est, pardon, des États-Unis. Le port qui figure dans Moby Dick, je crois d'ailleurs, l'œuvre de Melville. Et voilà, ils ont réalisé ce film et en gros, ils sont venus avec des GoPro sur le bateau. Et là, par contre, ils avaient un temps donné du matériel donné par leur laboratoire. Et du coup, ils ont vraiment pensé un dispositif pour accrocher les GoPro aux chaînes, aux bras des travailleurs, dans les bacs de récupération de poissons. Et c'est tout un système un peu clos comme ça, mais qui est vraiment ce qu'on peut appeler du corps caméra, tel qu'on en parle depuis le début. Voilà.
D'accord. D'accord. Alors, comment, on va dire, la corporité du cinéaste dans l'œuvre de Wang Bing, que tu as cité tout à l'heure, participe-t-elle à la mise en forme du dispositif et de la production du sens?
En gros, sa manière de se positionner et de positionner sa caméra a toujours une incidence sur les images, ça c'est évident, et sur le sens qu'on peut percevoir, nous, en tant que spectateurs. Que ce soit pour parler de la déliquescence des usines, qui... par cette caméra embarquée, un peu maladroite, un peu qui rend parfois l'image un peu évanescente, un peu vaporeuse comme ça, parle très bien de cette disparition prochaine du complexe d'usine et de la disparition des corps ouvriers qu'on est en train de voir devant nous. Et pour ce qui est de ce film de 3 heures avec Feng Ming, la femme chinoise qui raconte son histoire, là aussi le fait de rester sur une caméra qui se remet dans la posture assise du cinéaste et qui du coup est juste un simple plan de cette femme qui raconte sa vie va en quelque sorte vers une image qui fait preuve, qui fait trace d'une histoire qu'il est en train de sauvegarder de la Chine qui peut-être est très peu explorée sur le territoire chinois. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question, mais...
alors, le concept, on va dire le concept anthropologique d'être affecté, de Jeanne Favrette Saada, que tu évoquais, alors semble renvoyer à une modalité, on va dire, particulière d'engagement corporel et perceptif. Alors, dis-nous un peu comment se manifeste, on va dire, cette résonance dans les pratiques que tu analyses.
En fait, cette notion, j'en parle en lien avec une image affectée dont j'ai parlé un peu plus avant, mais cet être affecté dont parle Jeanne Favrette Saada, Dans la pratique, c'est presque comme un mode d'emploi, pardon, pour enregistrer les images qu'il faudrait, en fait, pour des êtres avec qui on crée des relations et pour des territoires qu'on veut faire résister. Il s'agit plutôt, du coup, de se rendre vulnérable le plus longtemps possible et de laisser le territoire et, du coup, ceux qu'on accompagne nous affecter directement en retour. Et c'est vraiment à l'inverse du surplomb, d'un regard unique à distance, encore une fois. Pour les cinéastes, ce serait en quelque sorte apprendre à cultiver cet état limite entre épuisement et perte de conscience de son propre sujet, de son idée cinématographique. On ne pense plus, du coup, à la composition des plans avec notre tête, on va dire, mais avec nos sensations. Voire on n'y pense plus du tout, hein, quitte à filmer en travers, au ras du sol, de la terre. Voilà.
Voilà une tunnel, là il y aurait une serre qui travaille à l'abri du vent. Et il pleut pas grave, tu bouffes sous la serre. Le bassin d'eau chaude est à côté puisque c'est le chute de la serre. Là par contre il y a cette lumière à récupérer là. J'arrive jamais à me rappeler du nom de ce plan. C'est le plan bleu là. Ah, c'est ça le plan bleu. On est bien placé dans les fenêtres. Bon temps qui arrive, bon. Le regret. Il y a un gros grain qui arrive. Toujours abri. Oh, trop tôt les deux là. On parle. On sera dans la douleur, disait l'autre. Putain, tu enfanteras dans la douleur, salaud! Oh la vache, le dos! Et ça monte, hein? Voilà. Putain, c'est puissant, hein?
Alors Marco, c'est tout extrait sonore sur H, c'est bien sûr ta création, parle-nous-en un peu.
Oui, ben, cet extrait-là précis, c'est justement ce fameux paysan qui est en train de s'arracher le dos, on va dire ça comme ça, pour travailler les semis à l'abri du vent, d'un vent d'Espagne qui d'habitude amène le feu aussi quand c'est très sec. Et du coup, voilà, on l'entend, lui et moi derrière, qui l'aide, même si j'essaye d'être silencieux, pour s'occuper des semis. Et du coup, je crois qu'on est en mars, par là. Voilà.
Alors, je serais juste tenté de te demander tout de suite, alors, filmer avec le corps, est-ce un acte politique?
Alors... Pour me rassurer, je serais tenté de répondre oui, mais un acte politique, disons que quand quand on filme et quand on fait ces images, concrètement, ça change rien à la condition de ce qu'on filme. Mmh. Peut-être après, une fois qu'elles sont diffusées, qu'elles sont produites en objet terminé, on va dire, en tant que film ou vidéo d'installation, peut-être que là, ça peut constituer un acte politique en fonction de où elles sont projetées, par quels organismes, pour qui, quel public. Mais voilà, tout ça, c'est des questions qu'il faut évidemment se poser. Mais tourner des images avec un corps caméra, ça n'arrête rien aux événements qu'on peut filmer. C'est un acte politique aussi dans le sens où du coup on enregistre la trace envers et contre tout, envers et contre toute condition ou tout environnement. Donc oui, dans le sens d'une trace de témoignage, d'une image de la preuve. Ça pourrait être un acte politique.
Ouais. La question du temps et on va dire de la relation si intime semble constituer un axe central de ta réflexion. Alors, en quoi ces paramètres structurent-ils, on va dire, la spécificité de ces pratiques-là ?
Alors, c'est évident qu'on ne fait pas les mêmes images après avoir passé un an avec la même personne que si on la voit de manière très dispersée dans le temps. Moi, j'ai expérimenté un peu les deux, justement, avec les égoutiers et avec, du coup, le paysan résistant dans les Pyrénées. Je ne me retrouve pas du tout avec le même résultat, ce qui est normal. Et du coup, ça aussi, ça dit quelque chose de la création finale. Et par exemple, avec les égoutiers, on va être sur des images qui écrasent beaucoup plus les corps, parce que très condensées dans le temps. Et sur les images avec Henri, par contre, ça s'élargit beaucoup plus et on accède à des images beaucoup plus... en défense de ce qu'il est en train de faire, et pas pour dénoncer une condition.
Voilà. Ok.
Il a quand même, quand il fait le truc, comme il a travaillé à l'eau et qu'il est très pointu, il a mis un tuyau qui va de là à là, en réserve, au cas où quelqu'un ait besoin du système d'irrigation. À y être, tu y es sur le mur et tu finis comme il faut. Donc là, tu vois, tu as un trou. Là, quand tu ouvres ici, toute l'eau va tomber là, et elle va filer vers là-bas. Donc il y a un peu de sable entre là et là-bas. Mais pas trop. Mais là, de mémoire, tu vois, il y a un tube. Là, ici. Tu vois, j'amène dedans. Il y a de la terre au départ. Après, il doit y avoir des racines qui ont remonté, puisqu'il est bouché de terre. Mais avec l'orientation, là, tu vois qu'il est là. Tac, il est là. Il suffit de péter là-dessous, et tu tombes sur le tuyau. Tu ramones, et tu as un accès pour avoir la flotte là. Très intéressant, ça. Un tuyau discret, noir, enterré, et tu mets l'eau là-bas. Oula, il y a un souci là-bas. Il y a un souci là-bas. Comment elle était cette bombe ? Voilà. Non ? Il veut plus l'eau, il y a un souci.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est le paysan résistant et moi qui travaillons sur son circuit hydraulique, circuit des eaux, dont il s'occupe pour faire circuler correctement l'eau sur son territoire, à côté de son vrai travail. Et voilà, c'est évidemment un territoire touché de plein fouet par la sécheresse. Donc c'est devenu la majorité de son travail, en fait. Il ne travaille plus tellement la terre. Voilà.
Alors, lorsque tu parles de résistance par la collaboration, à quel mécanisme en concret et à quelle configuration, on va dire, relationnelle penses-tu dans la pratique documentaire ?
Il y en a de plein de formes, mais je vais peut-être donner un exemple concret, celui des groupes Medvedkin, qui se sont formés en France pendant les luttes ouvrières à Sochaux et à Besançon à la fin des années 60, début des années 70, contre le système des usines Peugeot et Rodiaceta à l'époque. Donc avec l'arrivée du taylorisme, la mécanisation des corps, etc. etc. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une création d'un centre culturel populaire à Palente, qui a été créé par les ouvriers eux-mêmes. Et c'est de eux qu'est venue l'idée justement d'inviter des cinéastes pour projeter leurs films. Et de là, c'est créé une envie de eux-mêmes prendre les outils cinématographiques pour créer leurs propres films. Et ces films-là sont directement liés du coup à la lutte, aux revendications qu'ils avaient à l'époque et à leur vie, à leurs conditions. Donc voilà, ça c'est un exemple de collaboration très concret. Et sinon, il y a aussi beaucoup d'autrices et d'auteurs qui travaillent sur les questions des cinémas politiques en collaboration, et notamment une Nicole Brenez, qui, elle, a sorti deux premiers tomes de ce qu'elle appelle les pages arrachées à l'histoire du cinéma. Et donc voilà, elle fait une sorte de sommaire de tous les fronts de lutte sur lesquels agissent le cinéma. Et avec les luttes. Et il y a aussi peut-être les écrits de Robert Bonamy, Cinéma en commun et Cinéma réfractaire, où là aussi on a pas mal d'écrits sur des films qui ne sont plus diffusés, peu diffusés, qui sont faits en dehors des gros circuits et pour défendre des moyens de résister.
Alors, nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Alors, Marco, une dernière question. Alors, si tu devrais formuler en une proposition unique ce que le concept de corps-caméra reconfigure dans notre rapport perceptif et cognitif au monde, quelle serait-elle ?
Vaste question. je vais peut-être y répondre de manière détournée, désolé, parce que c'est un peu compliqué comme ça. Mais du coup, j'y répondrai en me demandant ce qui rejoint les différentes pratiques dont on a parlé jusqu'ici.
Oui.
Et peut-être que le centre de leur importance et de ce pourquoi elles existent, c'est la nécessité de lutter avec son corps tout entier, aux côtés de celles et ceux qui n'ont ni le temps ni la capacité d'enregistrer leurs propres usures et résistances, et de aussi aller ressentir dans sa chair les conditions de celles et ceux qu'on filme, voire être travailleurs de la terre, dans mon cas... carrément. Voilà. Et du coup, si je peux introduire le dernier choix musical, peut-être.
Oui, on va le laisser tout à la fin.
D'accord.
On va te dire un grand merci à toi. Oui. Voilà, pour ce partage riche et passionnant. Alors, nous nous retrouverons donc en novembre pour une nouvelle aventure avec toi encore, la question 6. Voilà, merci également à toutes et à tous qui nous écoutaient. Et bien sûr, rendez-vous très prochainement dans les chemins de traverse de la recherche, ici même, sur la même fréquence, hein, Radio Campus, la 90.8 FM. Louis.
El derecho de vivir. Que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar
más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
Je prends la parole deux secondes pour vous parler un tout petit peu de ce qu'on est en train d'entendre. C'est un chanteur qui s'appelle Victor Jara, un musicien aussi, qui est chilien et qui a été réprimé par le régime de l'époque en se faisant couper les mains pour qu'il ne joue plus jamais de la guitare et ne fasse plus de musique. Et du coup, voilà, c'est une musique qu'un des réalisateurs des groupes Medvedkin a beaucoup écouté pendant un de ses voyages au Chili. Voilà.
Que funde todo el clamor.